Concert à haute valeur symbolique, historique et que dire encore, concert de rentrée de l'orchestre Dijon-Bourgogne. Joseph Bastian, vous serez à la tête d'un orchestre qui n'est pas l'orchestre Dijon-Bourgogne habituel.
C'est tout à fait ça, on a l'orchestre Dijon-Bourgogne et on va essayer de fêter de nouveau cette année. C'est un projet qui a été lancé déjà il y a une bonne dizaine d'années. Ça a toujours été voulu qu'on rassemble les deux orchestres, donc on a enfin trouvé une occasion de le faire. En plus, l'année des 60 ans des contrats de l'Elysée. Et donc on aura une dizaine de musiciens de Mayence qui viennent compléter les rangs de l'ODB. C'est pour jouer la 9e de Beethoven, c'est l'œuvre idéale, bien entendu.
Œuvre que l'on croit connaître, mais la connaît-on si bien, cette œuvre ?
Alors ça, c'est toujours la question. Avec ces grandes œuvres du répertoire, c'est comme la 5e, on connaît les 3 premières mesures et on se demande ce qui se passe après pendant la demi-heure qui se passe. Et puis là, c'est un peu pareil, on croit connaître parce qu'on connaît le choral à la fin, mais le choral, c'est sur les 25 minutes du 4e mouvement, c'est une toute petite partie seulement, cette ode à la joie. Le 3e mouvement est très très peu connu en général, c'est l'endroit où les gens, quand ils ont un CD, bah, c'est là ils sautent le mouvement en général. Le 2e mouvement est un peu connu quand même, avec le coup de timbre, le fameux coup de timbale. Et puis le 1er mouvement, bien sûr, c'est un chef-d'œuvre en lui-même. Ceux qui sont tous les fans de films et de filmographie connaissent Orange Mécanique, donc connaissent cette œuvre-là jouée par synthétiseur. Mais sinon, effectivement, c'est une œuvre qu'on croit connaître, mais qui passe, surtout en France, passe finalement pas si souvent au programme des orchestres. Et puis, c'est une œuvre, elle est tellement profonde, tellement riche, que même si on pense la connaître, il y a tellement de détails à découvrir et redécouvrir à chaque fois que ça vaut le coup à chaque fois de venir l'écouter en live.
Est-ce que c'est une œuvre qui présente des difficultés particulières pour le chef ?
Des centaines, des milliers, oui. C'est une œuvre, bien sûr, par sa longueur, par le côté oratorium, avec le chœur à la fin, les solistes à la fin, bien sûr. Et puis après, sur le point musical et interprétation, c'est une œuvre qui reste toujours problématique parce que c'est une œuvre que Beethoven a écrite quand il était sourd. Donc il y a beaucoup de détails qu'il a écrits dont on part du principe qu'il ne savait pas comment ils allaient sonner après. Donc des modifications qu'il a faites qui ne sont pas forcément adaptées aux orchestres, aux voix et surtout aux salles d'aujourd'hui. Donc il y a énormément de choix d'interprétation à faire dans cette œuvre. Il faut aussi énormément s'informer parce que Beethoven n'a jamais été quelqu'un qui a écrit précisément ce qu'il voulait, ou alors il a été des fois, ou même très souvent d'ailleurs, laisse le choix, ou alors a des signes musicaux qu'on peut interpréter d'une façon ou d'une autre. Donc il y a énormément de choix musicaux à faire. Et après, point de vue de l'interprétation, c'est un des tellement grandes œuvres du répertoire que c'est un petit peu comme la quête du Graal pour un chef d'orchestre. Et à chaque fois qu'on se met à l'établir avec cette œuvre, c'est toujours très spécial et on a toujours des milliers de questions auxquelles on essaie de répondre pour un cadre particulier.
Avec ce peu de directives laissées par le compositeur, avec ses difficultés issues probablement de ses soucis d'audition à lui, est-ce qu'on n'est pas tenté de faire sa 9e ?
Alors on est obligé, ça. De toute façon, c'est avec chaque œuvre, on fait son interprétation, bien sûr. La plus grande difficulté de toujours dans ce genre d'œuvre, dans tous les Beethoven et puis dans d'autres œuvres aussi d'ailleurs, c'est d'essayer de trouver une unité à cette œuvre. C'est-à-dire, c'est pas à chaque mesure on fait une nouvelle décision et puis on va interpréter un signe d'une telle façon et la mesure d'après on va changer. Il faut essayer de trouver le fil conducteur de l'œuvre et puis avoir une interprétation qui fasse sens sur la longueur. Et dans ce cas-là, c'est une longueur relativement grande. Donc c'est effectivement ça, trouver ça, son interprétation, mais sans partir dans ses lubies en fait. Donc essayer de trouver quelque chose qui reste de logique, musicale et faisable bien sûr.
Joseph Bastien, alors peut-être qu'au moment où on nous écoute, certains événements sont passés, mais on organise avant le concert un certain nombre de manifestations. Notamment, on s'interroge sur la différence de culture ou de pratique musicale en France et en Allemagne. Alors, vous qui passez régulièrement à la frontière, quelle est la grande différence entre la musique en Allemagne, vous êtes souvent à Munich et pour cause, ou à Dijon par exemple, ou ailleurs en France?
Alors, il y a même des blagues qu'on fait là-dessus, mais pour le cas entre autres de la 9e, bah, par exemple la 9e de Beethoven, c'est une œuvre qui, dans les orchestres allemands, qui en général est au répertoire de tous les orchestres, c'est joué au moins une fois par an dans presque tous les orchestres d'Allemagne. Donc c'est vraiment une œuvre qui est vraiment passée dans le sang des musiciens d'orchestre allemand et des choristes, des chanteurs aussi. C'est une des grandes différences, c'est vraiment cette tradition. C'est aussi le fait que quand on est en Allemagne, même dans les plus petits orchestres, on donne toujours les moyens aux orchestres d'exister, ce qui n'est pas forcément toujours le cas en France. Ou alors en France, on leur donne plutôt le moyen de survivre à la place de vraiment de pouvoir faire leur travail comme il faut. C'est dans pratiquement toutes les régions, c'est comme ça en France. Donc cette tradition qui est vraiment ancrée très profondément, et ça se voit dans la 9e de Beethoven, entre autres, c'est vraiment cette tradition orchestrale qui est vraiment allemande, qui est vraiment une particularité allemande.
Et le fait que la 9e symphonie ait été un peu récupérée, j'y mets des guillemets, par les institutions politiques, par exemple, c'est une chance ou c'est un peu le contraire?
Alors, je trouve que c'est vraiment une chance, et c'est surtout un grand symbole. C'est pas pour rien que ce soit des grands compositeurs, Beethoven pour l'hymne européen, Haydn pour l'hymne allemand, par exemple, qui étaient récupérés, entre guillemets, par la politique et par les nations, par l'Union européenne. C'est vraiment montrer la force de ces œuvres. Même si on n'en a pris qu'un tout petit bout, ce petit bout du choral, c'est vraiment montrer l'universalité de ce langage. Et surtout la force de ces compositeurs qui arrivent, même si c'est pas joué par un orchestre, même si c'est chanté faux par la foule, ça reste quand même des œuvres dont la force intérieure, la force intrinsèque reste encore présente dans tous les cas de figure. Deine Zauber binden Lieder, was die Mode Strände tut. Alle Menschen werden grün, nur ein sanfter Vögel feiert. Deine Zauber binden Lieder.
Chantez faux, je reprends la balle au bon. Chantez faux par la foule, avez-vous dit. Vous allez proposer justement avant le concert au public qui sera nanti de son billet d'entrée à l'auditorium de Dijon, vous allez lui proposer de chanter avec vous?
Tout à fait, chanter juste d'ailleurs, ce sera tout le propos de la petite répétition juste avant. On propose ça comme bise parce que ça reste justement une œuvre qui fédère et une œuvre qui donne la chair de poule à tout le monde quand on l'entend. Donc y participer, c'est toujours mieux que simplement d'écouter. Une fois qu'on a été auditeur de cette symphonie, on va pouvoir aussi y participer, comme c'est une mélodie qu'on a en tête, que tout le monde a en tête. Et ça rejoint un petit peu aussi le projet qu'on a cette année avec l'Orchestre Dijon-Bourgogne et avec le chercheur Emmanuel Bigan, de vraiment écouter la musique d'une partie et puis d'être acteur de la musique, ce qui est très bon pour nos cerveaux, pour nos neurones. Donc pour rejoindre cet aspect-là de notre saison, on propose justement ce petit atelier. Et puis bon, ceux qui n'auront pas été à la répétition, s'ils connaissent l'œuvre, pourquoi pas chanter tous ensemble. Je pense que c'est pas tellement difficile finalement, si on en fait en plus dans la tonalité originale qui est très chantable. Donc une grande invitation à toutes nos auditrices et auditeurs à l'auditorium à Dijon de chanter avec nous en bis l'hymne de la joie.
Joseph Bastien, ce vendredi Dijon, 20h à l'auditorium, et le lendemain, vous êtes au Kursaal de Besançon à l'occasion du 76e Festival international de musique de Besançon. C'est une première.
Oui, c'est une première, et je suis très très heureux d'y être avec l'orchestre, avec l'Orchestre Dijon-Bourgogne. Un grand événement pour nous, bien sûr, d'être dans ce très très grand festival français et puis mondial. En plus, avec cette œuvre, avec nos collègues de l'orchestre de Mayence, avec des quatre solistes français et allemands extraordinaires, et le chœur de l'opéra. Donc c'est une très grande joie pour nous d'être invités par ce festival, oui.
Vous n'y êtes pas encore passé, mais déjà envie d'y revenir ?
C'est exactement ça, oui. Comme on a la chance dans cette région Bourgogne-Franche-Comté d'avoir deux orchestres, le fait de pouvoir jouer l'un dans la ville de l'autre et puis de pouvoir jouer justement dans la région, ça ne fait qu'enrichir le paysage musical bourguignon et franc-comtois aussi. Donc oui, bien sûr, avec envie d'y revenir, que ce soit au festival ou simplement comme ça dans la ville de Besançon.
Une belle ouverture de saison.
On peut dire idéale. Une des très grandes œuvres du répertoire, avec hautement symbolique, autant par l'œuvre que par le cadre dans lequel nous allons jouer, vendredi à Dijon ou samedi à Besançon. Et pour les quelques places qui restent, une invitation à toutes celles et ceux qui veulent venir écouter cette œuvre magistrale avec l'Orchestre Dijon-Bourgogne.